Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 10-10 d'aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui Luce Lebar, qui est la nouvelle directrice artistique du Pavillon Populaire, qui a réouvert après pratiquement un an de travaux en décembre 2025. C'était le 3 décembre par une pluie battante. Je remercie tout de suite, pour ne pas l'oublier, Léonie qui est à la technique. Bonjour Luce.
Bonjour Maria, merci pour l'invitation.
C'est un plaisir et un honneur. Donc ce Pavillon Populaire, qui est un lieu connu de Montpellier, a réouvert donc en décembre, après des travaux, et vous avez pris en même temps pratiquement la suite de Gilles Morat, qui présidait aux destinées de cet endroit depuis 2010. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre parcours, parce qu'on ne vous connaît pas, ou mal, ou peu. Donc vous êtes née à Asnières, mais bon, vous avez beaucoup voyagé depuis. Vous êtes passée par Montpellier d'ailleurs à une certaine époque pendant vos études.
Oui, en fait, j'ai travaillé à Montpellier, aux archives départementales de l'Hérault, dans les fonds photographiques, ce qu'on appelle les fonds figurés, qui regroupent les cartes, les plans, les estampes, les gravures et les photographies. Et après ça, j'ai rejoint la direction de des collections de la Société française de photographie à Paris, qui est la première association savante de photographes, en fait, qui a été fondée en 1854 par les inventeurs, les pionniers de la photographie, et qui est encore active aujourd'hui, mais qui est une structure avec une collection extraordinaire et qui est une structure qui est dédiée à l'étude de l'histoire de la photographie. Et en lien avec Gilles Morat, j'ai ce parcours d'historien. Gilles Morat était un historien, et toujours d'ailleurs un historien de la photographie, remarquable, qui avait une approche. J'ai des connivences avec son approche, une approche assez narrative de l'histoire de la photo. Moi, je me souviens du premier livre que j'ai lu d'histoire de la photo, qui était un livre de Gilles Morat, qui était une sorte de roman sur Walker Evans. J'étais étudiante à l'école de la photo d'art à ce moment-là, je dois avoir 18 ans, et je me souviens avoir été portée par ce récit. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et qui toujours me marque aujourd'hui, c'est-à-dire c'est cette idée de rendre accessible la connaissance et les images, leur histoire, par des expositions, par des ouvrages, par des activités de médiation qui soient à la fois irréduites mais aussi accessibles.
Alors c'est une question que j'allais vous poser. Vous êtes arrivée à la photo par l'image ou par l'histoire, parce que vous êtes archiviste, mais vous connaissez très bien la photo. Comment ça s'est passé ?
C'est l'image, moi. C'est la rencontre avec les images. Alors, j'aime bien évoquer cette première rencontre. D'ailleurs, la première expo qu'on présente en juin, qui ouvre le 30 juin au Pavillon Populaire, enfin le vernissage est le 30 juin, elle ouvre le 1er juillet, elle est sur les premières fois en photo. Donc, parce que là, elle est en fait sur cette idée aussi de la rencontre avec la photographie. C'est un peu ce que vous me demandez, comment j'ai rencontré la photographie. Et je l'ai rencontrée par la photo de famille. La photo, en fait, qui nous touche tous, qui nous concerne tous.
Qu'on fait tous, d'ailleurs.
Voilà, qu'on fait tous. Et parce que donc, j'ai une partie de ma famille qui vient d'Afrique du Nord. Et on avait, dans la maison de mon grand-père en France, une grande malle avec toutes ces photos qui venaient du Maroc. Et je passais, moi, toute seule, d'ailleurs, ça n'intéressait pas mes cousins, ça n'intéressait personne. Je passais énormément de temps enfant à brasser ces images qui me faisaient voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. Et c'est ces voyages, en fait, que nous font, enfin, pour moi, enfin, la photographie, c'est ça, c'est un moyen de voyager dans plusieurs dimensions. Et dans mon travail, dans tout ce que j'aime faire et que je continue à faire, donc les expos, les livres, les conférences, la recherche, eh bien, il y a toujours cette rencontre avec des images, des masses d'images, rencontre aussi avec des photographes. Et puis rencontre avec des acteurs aussi du milieu culturel et puis le public surtout, au cœur de notre travail à tous.
On parlera de la gratuité tout à l'heure, dans quelques instants, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important. Il faut accéder à la culture, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est à la fois une question d'éducation, mais c'est aussi une question de moyens parfois. Alors moi je voudrais dire un petit mot sur ce fameux Pavillon Populaire, parce qu'on en a parlé et ça correspond presque à la naissance de la photographie. Enfin c'est un petit peu postérieur, mais voilà. C'est un lieu qui a été construit à la fin du 19e siècle, c'est en 1880. Et ça a été construit pour une association qui s'appelait l'Association Générale des Étudiants de Montpellier, qui avait été créée quelques années avant. Donc 600 mètres carrés avec une très belle architecture néoclassique. C'est un architecte qui avait fait cet endroit. Et c'est important de raconter un peu cette histoire parce qu'effectivement, ça a été le lieu de rencontres très importantes à la fois de la vie quotidienne des Montpelliérains, mais aussi de la vie sociale. Donc les étudiants, à un moment donné, abandonnent ce lieu. Ça devient le pavillon populaire parce que dès 1905, ce cercle connaît des difficultés. 1907, c'est l'époque des manifestations vigneronnes à Montpellier, elles se passent là. 1914, c'est un hôpital, ça devient un endroit où on soigne les blessés. Et puis, avec le Front populaire, la victoire du Front populaire en 1936 est fêtée, donc entre les deux guerres, dans cet endroit. Et puis en 1971, les maires, toujours la viticulture qui défendent les vignerons, se réunissent là aussi et occupent le lieu. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit qui est marqué par la vie sociale de Montpellier. Et puis ça a été rénové donc en 81 et en 2025. Donc ça, c'est les dernières rénovations dont on parlait tout à l'heure. C'est important que cet endroit soit, j'allais dire, habité par tous ces événements qui ont été liés à la vie de l'Hérault, mais même à la vie nationale. Pour vous, est-ce qu'il y a une âme particulière dans cet endroit-là, qui va avec l'histoire de la photo, qui va avec...
Tout à fait, complètement. Déjà, rien que ce nom que le pavillon porte bien, qui est populaire, vous venez de le dire, ça a été un lieu de rassemblement, et ça l'est toujours d'ailleurs, un lieu populaire, accessible à tous, un lieu, vous l'avez évoqué discrètement, mais qui est gratuit, alors c'est le comble de l'accessibilité, là, avec aussi beaucoup d'activités de médiation pour tous les publics, y compris les publics qu'on appelle empêchés. Oui, il est en cœur de ville, il a une situation extraordinaire, donc il est aussi accessible, en plus depuis les travaux là, qui ont métamorphosé l'esplanade, donc il est vraiment facile d'accès, à la fois en voiture, à pied, donc oui, cette histoire et cette accessibilité, elle colle à la photographie, parce que la photographie, dès ses débuts, c'est une image populaire, c'est une image d'ailleurs... On dit, et c'est François Arago, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui était député des Pyrénées-Orientales, l'astronome, qui a, lorsqu'il a fait la déclaration officielle d'invention de la photo en 1839, il a littéralement, libéralement, il emploie ce mot, donné la photographie au monde et au peuple. C'est inédit dans l'histoire de la propriété industrielle. Ils ont décidé, l'État a décidé d'acheter l'invention de Niépce et Daguerre contre une rente et de la donner. Et c'est ce qui a fait qu'en très peu de temps, des milliers de studios ont ouvert à Paris et en province de photographie. La photographie était accessible tant par sa pratique, sa méthode, et aussi elle était accessible à tous. Parce qu'avant, on n'avait pas la possibilité d'avoir un portrait de soi-même. C'était réservé à l'aristocratie, au prince. Et d'un seul coup, c'est amorcé une révolution.
Alors, autre révolution, ce sont les téléphones portables. On fait des milliards de photographies. On en garde trois, mais bon, on fait des milliards de photographies.
Alors là, c'est le comble de voilà.
Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est le comble. Vous allez dire de la popularité. Alors, le sud-est de la France est réputé, enfin en tout cas il y a deux endroits extrêmement réputés, c'est Perpignan, avec le festival du photojournalisme, du photoreporter, et Arles, et Montpellier au milieu de tout ça.
Alors moi, c'est deux festivals que j'adore.
Qu'est-ce qu'il y a une place à donner à Montpellier ? Est-ce qu'il faut encore trouver une place, notre ville,
Tout à fait. Déjà, juste me permettre de dire que c'est deux festivals que j'adore et que je suis beaucoup, qui sont différents. Il y en a un qui est plus consacré à la photo d'auteur ou qui met en valeur les commissaires, et l'autre, le photojournalisme. Deux rendez-vous complètement différents auxquels je collabore et avec lesquels il est intéressant de créer des liens, d'ailleurs, pour le pavillon. Il y a aussi un autre lieu qui a été important, c'est Sète, avec le festival Images Singulières, qui a beaucoup animé le territoire. On était Montpellier dans une triangulaire, hein, en fait, entre les trois. Et une des choses qu'on a tout de suite mis en place en arrivant, c'est un partenariat avec les Rencontres d'Arles, le festival international, justement pour favoriser des échanges, des flux, des synergies. Et donc, la première expo de cette saison 2026, qui ouvre donc le 1er juillet,
la première dont vous serez pleinement responsable.
Exactement, à la fois en direction artistique et en commissariat, sur les premières fois en photographie. Elle est inscrite dans le programme des Rencontres d'Arles. Elle a rejoint ce qui s'appelle le Grand Arles Express.
On va faire une première pause musicale. Déjà, hein, déjà 9 minutes sont passées, ça va vite.
Ah oui,
et vous avez choisi Philip Glass, The Photographer, avec une chanson un peu répétitive. Vous m'avez dit « I never seen ». This picture before.
Oui, c'est Philip Glass, c'est un opéra que j'adore et voilà.
On va écouter ça tout de suite et on se retrouve après.
Merci.
Retour dans ce 10-10 avec aujourd'hui Luce Lebar, qui est la directrice artistique du Pavillon Populaire. Pavillon Populaire consacré à la photographie depuis déjà longtemps, après avoir connu toute l'histoire dont je parlais tout à l'heure, hein, qui était une histoire très en lien avec l'histoire sociale de notre département. Luce, je voudrais savoir quelle est la place de la photo dans votre vie. Alors vous allez me dire majeure, puisque pratiquement tout le temps vous avez travaillé autour de la photographie. Que représente la photo pour vous? Quelles sont ces différentes dimensions dont vous tenez compte?
La photo occupe une place très importante dans ma vie, c'est presque un sacerdoce. Et je m'intéresse à toutes les formes de pratique et d'usage de la photographie, à toutes les images qui peuplent en fait à la fois notre quotidien, qui peuplent les archives des photographes, qui peuplent celles qui sont faites aussi, les images contemporaines. Et j'ai quand même un tropisme pour la photographie historique, ce qui correspond bien aussi au pavillon, puisqu'une des missions du pavillon, c'est l'histoire de la photographie, de mettre en avant l'histoire de la photographie, un goût pour l'archive, pour les collections oubliées, les productions qui, des fois, ne sont pas faites avec une intention artistique, comme par exemple le corpus du photographe Eugène Adjet, qui a photographié un Paris en train de disparaître dans un but documentaire et qui ensuite, dont l'œuvre a été redécouverte des années après.
Et qu'on ne peut pas séparer d'ailleurs de l'évolution des arts en général, je pense à la peinture ou à la sculpture, mais à la peinture. C'est-à-dire qu'il y avait des témoignages qui pouvaient être sous forme de tableaux, de représentations, de gravures, etc. Et la photographie.
Oui, tout à fait.
Ça raconte le même Paris, ça raconte la même chose, mais avec des techniques différentes.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la photographie, c'est sa malléabilité. C'est-à-dire qu'une photo, comme par exemple celle d'Adjet, peuvent être considérées un temps comme des documents, des archives, et puis d'un seul coup, par plein d'histoires, de circulation d'images, de regards qu'on leur porte, elles peuvent se retrouver sur les cimes du MoMA, du Museum of Modern Art de New York, comme ça a été le cas de Eugène Adjet, ce documentariste qui finalement a donné lieu au MoMA à la fin du XXe siècle, à plus d'une monographie en 4 volumes, comme jamais ça a été consacré à aucun artiste dans l'histoire du MoMA. Donc la photographie, elle a cette puissance, cette force d'être malléable et puis de toucher aussi au quotidien.
Oui, j'allais dire, peut-être cette légèreté aussi du quotidien, parfois, enfin, des fois le quotidien peut être très lourd, on en sait quelque chose actuellement, quand on documente en ce moment certains endroits du monde, c'est pas forcément pour sourire, mais vous avez fait de nombreux ouvrages, hein, vous avez fait de nombreuses conférences, il y en avait un sur la saga des inventions du masque à gaz à la machine à laver, alors effectivement, là on est vraiment dans le quotidien.
Ouais, ça c'était passionnant, c'était toute une archive de photos de plaques de verre qui ont été retrouvées dans des boîtes au fond d'un sous-sol du CNRS Images, du Centre National de Recherche Scientifique, et donc on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut en faire. Et j'ai travaillé sur ces plus de 10 000 plaques qui racontaient en fait une histoire qui commence en 1915, en plein milieu de la guerre, et qui se termine en 1939 avec la création du CNRS, et qui raconte comment la photographie vient accompagner tout un dispositif d'invention, d'abord qui sont offensives et défensives, des masques à gaz, des armes, etc. Et après la guerre, comment le même service et les mêmes photographes photographient de la même façon, non pas des fusils, mais des balais brosses et des machines à laver. Donc, c'est ce qu'on appelle les arts ménagers, avec des figures. Ce qui a été hyper intéressant, et moi, ce que j'adore faire, et qu'on le fait là avec des collègues au pavillon, déjà, c'est faire des expos de recherche. Des expos qui soient aussi un peu laboratoires et qui nous permettent de découvrir des choses. Et là, dans le cas de la saga des inventions, l'auteur de ces images hallucinantes était une énigme. Et en faisant des recherches, et parmi l'hasard, on a retrouvé que c'était Monsieur Alfred Machin, c'est une anecdote, hein, mais qui était un grand pionnier du cinéma muet et qui était donc qui avait été comment dire pendant la guerre mobilisé exactement et dans ce service et qui avait une œuvre qui s'était interrompue pendant 8 ans. Tous les historiens du cinéma ne comprenaient pas où il avait été, ce qu'il avait fait, et en fait il était dans ce service secret des inventions. Et donc c'était un auteur. En fait, ces images qu'on pensait comme des images anonymes, de toute manière, elles avaient une puissance qui faisait qu'il y avait quelqu'un derrière. Et en fait, il y avait un auteur. Voilà, alors, un exemple parmi d'autres.
Dans ce que vous aimez bien, hein, j'ai lu votre histoire par rapport à la photographie, vos centres d'intérêt, etc. Moi, j'ai remarqué deux choses. Donc, un intérêt pour les archives. Et les grands photographes du XXe siècle, qui sont de grands témoins aussi, et puis un intérêt pour les femmes photographes, Alors, bon, je vous ai posé la question que je pose aux peintres en général. Est-ce qu'il y a une différence entre la peinture de femme et la photo de femme? Mais ça, on va voir ça dans quelques instants.
C'est intéressant.
Mais c'est vrai qu'il y a un véritable intérêt pour les archives, cette documentation, ces traces qui sont laissées, selon les différentes techniques, parce que vous nous parlez de plaques de verre, il y a des daguerréotypes, des plaques de verre, les photos tirées, les photos maintenant qui sont numériques.
Il faut savoir que la prochaine expo qui ouvre, je me répète, mais le 1er juillet...
Il faut le répéter, hein,
vernissage le 30 juin, on va révéler le premier daguerréotype de daguerre, donc celui qui a servi à la déclaration d'invention. Il sera là en présence des photos.
Pas daguerre, hein.
Pas daguerre, mais son daguerréotype premier. Et puis des images, des premières images aussi de Niépce de 1826-27, donc des incunables, ce qu'on appelle des incunables en photographie. Et le public pourra voir, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, que la photographie, elle n'a pas toujours été en noir et blanc ou en couleur, et elle a été sur tous les supports déjà, y compris la soie, et qu'il y a plein d'objets qui accompagnent la photographie, que souvent on montre moins. Et donc voilà, donc la première expo, elle va pouvoir montrer cette diversité, ce florilège d'objets, de choses.
Vous allez nous faire découvrir d'une certaine façon l'histoire de la photo au travers de ces clichés.
C'est ça,
c'est une façon de poser les bases.
Voilà, et c'est un regard assez ludique aussi, vous le verrez, sur l'histoire de la photographie. Effectivement, sur tous ces supports, toutes ces formes.
Et puis la partie, j'allais dire, féminine, et pas forcément féministe, de la photographie, parce que nous avons des grandes photographes. On connaît souvent beaucoup des noms d'hommes, mais il y a des photographes qui ont documenté dans tous les domaines.
Tout à fait. Et quand on travaille dans des collections de musées, et quand on s'aperçoit que en fait les femmes sont quand même sous-représentées, surtout au 19e.
Est-ce que ça change?
Qu'est-ce que ça change?
Est-ce que ça change?
Ah oui,
est-ce que
ça a énormément de choses changées. Il y a tout un mouvement qui s'est créé. Ça, c'est parti un peu des États-Unis, beaucoup en Allemagne aussi, dans les années, à partir des années 60-80, plutôt 1980, et qui ont fait que de plus en plus, on fait attention. Je pense que le mouvement MeToo a aussi énormément apporté. Nous, notre livre qui s'appelle Une histoire mondiale des femmes photographes, que j'ai fait avec donc ma collègue amie Marie Robert, qui est conservatrice photo au musée d'Orsay, eh bien, ce livre,
mis en évidence.
C'est une somme, en fait. On voulait faire une espèce de pavé dans la mare parce que on voulait dire, on pense qu'il y a dans les histoires de la photo, qui ont d'ailleurs souvent été écrites par des hommes, mais il y a très peu de femmes mentionnées, c'est toujours les mêmes. Il y en a trois, Anne Atkins, Margaret Julia Cameron, Diane Arbus. Et en fait, il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été photographes, mais on les a... oubliés, où on les a... Nous, pour arriver à ce geste de qui est ce livre, en fait, on a invité 150 autrices du monde entier pour qu'elles nous aident à localiser, trouver et écrire sur des femmes qui viennent de Panama, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent de Groenland, qui viennent de Haïti. Et parce que toutes seules, nous, on ne pouvait pas avoir accès à ces informations. Et ça a été ce qu'on a fait pendant la pandémie, ça a été extraordinaire. Et on a vu, mais nous-mêmes avons été sidérés, à quel point, dès le 19e, les femmes sont là.
Et s'emparent de ce média.
S'en emparent, mais elles n'en ont pas le droit juridiquement, elles n'ont pas le droit d'exercer, donc elles prennent souvent des noms d'hommes, etc. Et aujourd'hui, il y a toute une communauté de chercheuses et de commissaires, etc., de photographes aussi, qui s'intéressent à cette histoire et à ces femmes.
La question que vous attendez depuis un petit moment, mais vous allez avoir une minute pour y répondre, pour vous, c'est quoi une bonne photo?
Une bonne photo. Une bonne photo, ça dépend un peu du contexte. Parce que, encore une fois, une bonne photo, une photo quelle qu'elle soit, peut passer complètement inaperçue. Si un photographe fait je ne sais quelle photo et qu'il l'envoie au National Geographic, alors qu'en fait, elle pourrait faire la une de Libération. Voilà, il y a déjà ça. Il y a la question de la pratique, l'usage. Et puis après, il y a... toutes nos différences à nous. Une bonne photo, ça peut être très très personnel. Si vous posez cette question à nous tous qui sommes ici dans cette salle, chacun aura une bonne photo différente.
Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué?
Il y en a plein. Il y en a plein qui m'ont marqué. Alors choisir une, oui. Mais par contre, Non, je pensais à notre première expo là, du mois de juin, c'est qu'on a... Il y a toute une partie de cette première expo qui concerne les premières photos de photographes. Et donc, on a posé, enfin, c'était à la base la styliste et collectionneuse Agnès B, qui a posé cette question à des photographes en leur demandant leur première photo, c'est-à-dire leur histoire, la rencontre avec la photographie. En fait, c'est une image qui les a marqués, c'est ça, et qui a fait qu'ils ont ressenti le besoin de devenir photographe. Et donc, c'est cette question-là, on voit... Les témoignages sont complètement différents. Certains, c'est parce qu'ils ont rencontré un appareil photo. D'autres, c'est ils ont eu en main un appareil photo qu'on leur a offert. D'autres, c'est une image qui, à un moment donné, qu'ils ont fait, qui leur a donné envie de s'engager socialement et d'utiliser la photo comme ça, etc. etc. Donc, en fait,
Ça dépend.
Voilà, il n'y a pas une... De la même façon qu'il n'y a pas une première photo, qu'il y en a plein, moi, je dirais que les bonnes photos, il y en a plein. Ça dépend des moments et des jours.
Deuxième petite pause musicale, si vous le voulez bien. Alors, cette fois-ci, vous nous proposez une version de Felicita, la chanson extrêmement connue par Gabriel Ponte. C'est un joli choix. Merci de votre fidélité dans ce 10-10 qui reçoit aujourd'hui Lise Lebar, qui est la directrice artistique du Pavillon Populaire, la nouvelle directrice artistique après un long règne, celui de Gilles Morat, qui aimait beaucoup la photo américaine. Donc vous aviez dit en début d'émission que vous avez beaucoup de, comment dire, d'accointance, d'accord avec Gilles Morat, mais là il va falloir que vous imposiez votre patte, si je puis dire. Donc vous êtes arrivé au moment de l'exposition de Depardieu, on va en dire un mot d'abord, pour savoir si c'est une exposition qui a été très visitée, très fréquentée. Et puis, elle rentre tout à fait dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à la fois l'histoire, la documentation, le quotidien, et puis la technique photographique.
Oui, alors cette expo de Depardieu, elle a été commissariée par Marie Pérennes et Simon Depardieu.
Marie Pérennes, qui est la belle-fille de Depardieu et la femme de Simon, c'est ça?
Oui, et qui est avant tout une grande commissaire.
Enfin, je trouve que, certainement.
Mais c'est comme ça qu'elle
est arrivée, parce qu'elle était la belle-fille de Depardieu. Non, c'est vrai qu'elle connaît bien l'œuvre de Depardieu, entre autres.
Oui, elle la connaît bien intimement. Et puis, elle a un regard très intéressant, Marie Pérennes. Notamment, moi, j'avais adoré l'expo qu'elle a fait de Olga Amaral à la Fondation Cartier, qui est une artiste qui travaille sur le textile et la lumière. Et je trouve que dans l'exposition de Pardon, on sent la touche un peu de Marie Pérennes et son approche de la lumière, parce que cette exposition...
Elle a choisi un certain nombre de photos.
Oui, et puis...
Et au travers de ce choix...
Exactement. L'exposition est sur la question de la couleur et de la lumière. Donc la couleur et la lumière, et c'est un voyage à travers l'œuvre colorée de Pardon, et voyage à la lumière. Quand on visite l'expo, elle se termine d'ailleurs... Elle commence par, on va dire, elle commence par les photos qu'il a fait du terroir français qui sont très connues, de la campagne, la vie rurale qui lui est chère, qui est de là où il vient, et elle se termine l'expo avec la lumière du sud, avec des photos de la Méditerranée. Et donc c'est une expo qui est très populaire. Depardon, c'est le plus grand photographe français, c'est un monument, il est connu
encore vivant
et dans le monde entier, internationalement. Quand on fait une expo Depardon, on a toujours un public extraordinaire. Là, le public fait la queue tous les week-ends,
voilà, justement, c'est ça,
600 à 700 personnes par jour,
ce qui est
énorme et ce qui est régulier. Le week-end, les agents d'accueil doivent filtrer parce qu'il y a trop de monde. Il y a des queues, des tout ça. Donc une expo très 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 populaire et réjouissante qui aussi nous fait découvrir des archives de Depardon, parce qu'il a été photographe de presse, des Unes notamment. Et puis, son très beau travail, les images qu'il a fait à Glasgow, en Irlande.
On va regarder vers l'avenir, puisque l'avenir, c'est vous, là, maintenant.
Ouais.
Donc, est-ce que vous allez... qu'est-ce que vous avez imaginé? Donc, il y a deux expositions.
Oui.
Là, une qui va se présenter au mois de juin, qui va être à partir du 1er juillet visible par le grand public. Et une seconde à l'automne, je suppose.
En décembre, elle commence en
décembre.
Décembre.
Ça, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qu'il y a au programme?
Alors, pour 2026, un programme donc, de deux expositions, avec une première expo qui est collective, thématique, et une deuxième expo qui est une monographie rétrospective d'un grand photographe, dont deux expériences de visite pour les visiteurs différentes. L'une, une plongée dans une œuvre plus intime, et puis l'autre plus éclectique, et qui est donc une rencontre originale avec l'histoire de la photographie. Moi, mon idée, c'était de... évidemment aussi dans cette tradition de pavillon populaire d'être très ouverte à toutes les pratiques de la photo, c'est-à-dire pas que la photo artistique, pas que la photo documentaire ou scientifique, mais l'ensemble des pratiques et des usages. Donc ça, c'est la première chose qu'on verra. La première expo, elle s'intitule Première photo, et donc c'est un voyage dans l'histoire de l'innovation photographique, et autour, c'est un voyage autour de la question de qu'est-ce qu'une image première. Ça commence, on le verra je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu l'idée de l'œuf et de la poule. Qui est le premier? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Et on va montrer tout au long de l'expo qu'il n'y a pas une invention de la photo, mais de multiples inventions. Et cette expo, elle s'inscrit au cœur des commémorations du bicentenaire qui commence en octobre, mais nous, on est en avant-première du bicentenaire. On commence un petit peu avant et on est dans ce contexte. On l'a dit dans
du bicentenaire de l'invention de la photographie
par Niepce,
précisons-le.
Le 150-naire, c'était en 1989 et on fêtait Daguerre. Et là, la France a décidé de fêter Niepce 1826-27. En fait, il y a une hésitation. Donc, le bicentenaire est à cheval entre les deux années. Et donc une exposition qui aussi... moi, ce qui m'intéressait, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est de créer des liens avec le territoire, avec Montpellier, avec la ville de Montpellier et le territoire. Que ce ne soit pas forcément des liens liés aux représentations même de la ville. Mais voilà, pour la première expo, on intègre des images qui sont conservées sur le territoire. Par exemple, les premières images sous-marines jamais réalisées qui avaient fait la une de tous les journaux du monde entier, New York Times compris, en 1890, qui ont été faites dans la baie de Banyuls, à l'observatoire Arago de la baie de Banyuls. Un exemple. Ou alors aux archives municipales de Montpellier, les archives départementales. On a aussi convoqué les archives de l'université qui nous prêtent par exemple le premier atlas international des nuages. Qui a posé les bases un peu de la météorologie moderne, dont la dernière version est en ligne sur le site de l'Office météorologique mondial. Voilà, donc créer des liens avec des collections privées et publiques sur le territoire, et puis aussi à l'échelle plus vaste, puisqu'on a un partenariat des prêts de la collection Agnès B., du Musée français de la photographie, de l'Institut national
du
patrimoine.
Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Alors, on parlera de la seconde expo qui aura lieu donc en décembre, on en parlera à ce moment-là. On refera un 10-10 peut-être uniquement autour de cet artiste, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord.
Avec sa commissaire, parce que pour la deuxième expo, j'ai invité la spécialiste de ce photographe.
Mais là, je pense que ce serait bien effectivement de parler des liens qui vont se créer, vous venez d'en dire un mot, des liens qui vont se créer avec d'autres très grands. Alors, moi, je parlais de Montpellier, je parlais de Perpignan et je parlais d'Arles, mais je vois que aussi, là, vous êtes en train de travailler sur une ouverture, finalement, de ce pavillon populaire.
Oui. Alors, première expo, elle inclut 70 photographes et de nombreux prêteurs qui nous prêtent donc des originaux. Je vous en ai listé quelques-uns. Il y a aussi le Musée français de la photographie de Bièvre et puis l'Institut national du patrimoine, l'Institut national de la propriété industrielle, pardon, et artistique. Et puis, nous avons des prêts aussi du Muséum d'histoire naturelle, de plein de structures nationales, départementales, etc. Ça crée un espèce de réseau autour de Montpellier, une joie et un plaisir de tous ces prêteurs qui sont ravis de collaborer.
Alors, est-ce avec que votre ambition, c'est de faire que ce réseau, à un moment donné, place Montpellier vraiment entre Arles et Perpignan, avec une aussi grande notoriété que ces grandes
rencontres? Oui, moi, je dirais même au cœur de la France, en fait. Pas que entre Arles et Perpignan.
De la planète.
Avec Arles et Perpignan, d'accord. C'est ça l'idée, c'est de travailler ensemble, faire des choses en lien, et parce que voilà, et puis d'être bien positionné. Le pavillon l'est déjà très bien avec les expos de recherche.
Géographiquement dans la ville, voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit.
Et puis, on a une exigence à Montpellier et au pavillon populaire, c'est la question de l'inédit. Donc, on fait des expos inédites. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ça. Et c'est ce que faisait Gilles Morat avec...
ce que vous souhaitez poursuivre.
C'est du sur-mesure. On invente des expos et ça, c'est aussi assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de lieux qui sont à la fois gratuits en France
Alors c'est
pour
ça.
La photo.
On allait parler de la gratuité, évidemment. Mais moi, je voulais passer du macro au micro. Ça veut dire que même sur le territoire de Montpellier, il y a des associations qui travaillent et des manifestations. Je pense aux boutographes. Ça, vous n'allez pas laisser tomber. Vous resterez...
Oui. Moi, ce n'est pas de mon ressort. De toutes les manières, c'est la ville.
Et
la
ville,
il y a un lien très fort. La ville accueille tous les mois de mai les boutographies depuis très longtemps au pavillon populaire. Moi, j'ai connu les boutos à l'époque où ils n'étaient pas encore au pavillon populaire, à Boutonnet. Et c'est un festival qui est très dynamique, qui accueille de la photographie contemporaine émergente, qui donne leur chance via un appel d'offres, enfin un appel à candidature à des photographes. C'est un moment joyeux et festif et qui a lieu tous les mois de mai au pavillon populaire et qui rythme un peu.
Et ça, vous continuerez à soutenir.
La ville continue évidemment à soutenir cela.
Et la gratuité, un dernier mot là-dessus, puisqu'on va terminer. La gratuité, c'est pareil, ça fait partie des piliers.
De la politique culturelle de Montpellier. Et je vous avoue que moi, c'est quelque chose qui a aussi énormément compté dans ma candidature, parce que c'est très rare aujourd'hui. Les festivals sont payants, les Arles, c'est payant. Perpignan est gratuit, mais c'est exceptionnel. Il se bat beaucoup pour ça, Jean-François Leroy. Et cette accessibilité, elle est aussi favorisée par les trams. L'accès aux lieux est facilité. Tout ça, ça fait partie de...
D'une politique culturelle,
exactement,
intelligente et ouverte.
Exactement.
Je vous remercie beaucoup, Luce. Ça fait déjà pour trois quarts d'heure que nous parlons. Bah,
merci beaucoup, Maria.
Merci à vous d'être venue jusqu'ici. Ouais. On se reverra, ça c'est certain, parce que vous avez un joli programme. Je vais remercier aussi Léonie qui a assuré la technique de cette émission. Et vous, les auditrices et auditeurs, si je veux le mettre dans le bon ordre, je vous remercie de votre fidélité. J'espère vous retrouver dans un prochain 10-10. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.
Au revoir.